Le temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Le magazine des rencontres aussi entre les écrivains. Et cette semaine, elle a lieu entre deux auteurs qui se servent de l'archive pour nourrir leurs fantasmes. Et notamment deux photos qui s'invitent, qui s'imposent et même parfois qui conditionnent leurs textes. Deux textes en forme d'enquête, deux textes sur la famille, sur la filiation, à retrouver ou à inventer, des textes déclenchés par des éléments mystérieux, étrangers, puis de plus en plus familiers, volés même. Les textes de qui ? Le premier s'appelle Arnaud Catrine, il s'est plongé dans les cartons de photos d'anonymes pour stimuler son imaginaire et donner le sentiment ou l'illusion de ressusciter l'histoire d'une famille avec Andrew est plus beau que toi d'Arnaud Catrine, publié chez Flammarion, où ses archives photographiques cohabitent avec le texte. Le roman photo fait peau neuve. Bonjour Arnaud Catrine.
Bonjour.
Je dis roman photo, c'est exprès parce que c'est simple et ça permet déjà de donner une image de ce texte. La seconde se nomme Christine Montalbetti. Elle s'est, quant à elle, confrontée à des archives personnelles. Une photo, quelques photos là encore, mais aussi les lunettes et certains écrits de son ancêtre. C'était son arrière-arrière-grand-père, pour être plus précis. Elle essaie de retracer son histoire dans « Mon ancêtre poisson » avec un P majuscule. C'est publié chez Peuel. Bonjour Christine Montalbetti.
Bonjour.
Alors vous avez écrit une dizaine, on commence par vous, une dizaine de romans et deux recueils de nouvelles, mais vous écrivez pour le théâtre. Il y a eu notamment une adaptation de Dr. Jekyll et Mr. Hyde avec le cas de Jekyll en 2009, mise en scène par Podalides. Et il y a une version à l'opéra l'année dernière. Ça vous plaît cette transposition des textes qui sortent du livre pour arriver sur la scène?
C'était très intéressant parce qu'on m'a proposé d'écrire le livret à partir de la pièce et voilà, j'ai appris beaucoup de choses aussi en discutant avec le compositeur.
Alors vous venez aujourd'hui nous parler donc de Mon ancêtre poisson, où il est question d'un poisson, mais pas le poisson dont nous sommes censés tous descendre, hein, qui serait notre ancêtre commun, mais un poisson qui s'appelle Jules Poisson, votre arrière-grand-père, un inconnu intime, on pourrait dire ça, dans lequel vous vous reconnaissez, vous enquêtez sur lui, c'était un homme de science, il a débuté comme jardinier. Alors, jardinier à 9 ans, mais les enfants pouvaient travailler à 9 ans au Jardin des Plantes.
Oui, c'était une époque à laquelle les enfants travaillaient, il est né en 1833, donc j'ai découvert qu'il était entré en 1843. Dans la famille, on disait qu'il était entré comme jardinier adolescent, et du coup, quand j'ai découvert ça sur sa feuille de déclaration de retraite, je me suis demandé pourquoi il avait travaillé si jeune. Et je me suis fait un premier petit roman sur l'histoire de ses parents, du fait que peut-être il était orphelin de père. Et voilà, je me suis mis à imaginer comme ça des choses. Et puis plus tard, à mesure que je trouve d'autres informations, je découvrirai que ça n'est pas celle-là, la bonne version.
Oui, avec donc à 9 ans, avec des petits outils adaptés à sa taille.
Oui.
Voilà. De petit jardinier, il est devenu grand botaniste. Qui était-il ? Eh bien, c'est ce que vous tentez de découvrir. Vous avez parlé de roman. D'ailleurs, le mot roman revient sans arrêt. On se fait tous des petits romans avec des petits détails. Vous guettez le moindre indice qui pourrait vous aider dans cette quête pour savoir qui était justement cet ancêtre poisson. Alors vous servez de photo, vous servez d'une métaphore qu'il emploie dans un article, parce qu'il écrivait beaucoup d'articles scientifiques, mais qui étaient un peu plus que des articles scientifiques. Notamment, il disait que les arbres, certains arbres poussent sans broncher. Il était déjà écrivain.
Il était autodidacte, donc il a appris vraiment à écrire tout seul. Ça aussi, je trouvais ça très beau, son rapport au langage. Et j'étais très émue de pouvoir rentrer dans ses phrases aussi. Et donc oui, parfois je traque une comparaison, une métaphore. Je me dis aussi que les comparaisons qu'on emploie, les métaphores qu'on emploie, elles font appel à ce qui pour nous sont des objets habituels, communs, qui sont des objets de référence. Et du coup que ça dit aussi des choses sur son univers, sur voilà, que ça peut aussi fournir des pistes pour essayer de reconstituer son histoire.
Comprendre le langage d'un autre, c'est aussi entrer dans sa tête. Il parlait aussi des yucca à la beauté sévère. Et quand les traces manquent, alors vous l'interpellez, hein, vous adressez à lui. Il est doux, le temps que je passe avec toi, écrivez-vous. Alors écrivez-vous ou écrit la narratrice d'ailleurs? Est-ce qu'on simplifie? Est-ce qu'on dit vous, Christine Montalbetti, ou est-ce qu'on...
Non, je crois que c'est moi. Oui,
voilà, donc on lève toute ambiguïté. Vous entamez, c'est une conversation hein, que ce livre, lui, vous lui donnez du Mon Jules. Vous lui confiez que ta vie, Jules, c'est avant tout une série de petits romans. Vous allez aussi nous confier certains secrets dans un livre qui me semble être une sorte de méditation sur la vie et la fiction. Je disais, voilà, le petit roman qui est présent à chaque fois, à chaque page. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous pencher sur l'ancêtre poisson?
Il y avait plusieurs choses. Il y avait plusieurs choses. Il y avait le fait que les quelques fois où je me promenais dans le jardin des plantes, j'avais cette sensation bizarre de marcher dans un jardin d'enfance. La sensation de revenir à la maison, d'être une sorte de fille prodigue qui serait partie...
Dans les villes.
Voilà, dans les dangers des villes, et puis qui tout d'un coup me retrouverait dans cette espèce de jardin qui est vraiment un lieu édénique, une espèce de lieu d'enfance. Et je m'interrogeais sur ce sentiment, sur cette affection bizarre que j'éprouvais pour cet homme qu'évidemment je n'avais pas connu.
Mais on en parlait beaucoup dans la famille, de l'ancêtre poisson.
Et oui, je crois que c'était le seul dont on parlait vraiment. C'était le grand-père de ma grand-mère, et donc elle l'avait beaucoup aimé. Elle l'avait connu jusqu'à ses 12 ans. Donc elle avait aussi quelques anecdotes à nous raconter à son sujet. C'était celui qui était peut-être le plus, justement, celui au sujet duquel il y avait des anecdotes. Mais j'ai eu envie de m'interroger là-dessus aussi, sur cette affection inconsidérée qu'on peut éprouver pour un ancêtre qu'on n'a pas connu.
Et donc... vous parlez d'affection pour quelqu'un que vous n'avez pas connu. Il y avait du sentiment déjà.
C'est curieux, ça a vraiment été le moteur du livre. Et cette affection, du coup, je la travaille dans l'écriture. Je pourrais dire presque que je la vis, que je l'ai vécue dans le temps de l'écriture. Le livre, c'est quand même cet espace... fantastique dans tous les sens du terme, dans lequel une rencontre peut avoir lieu avec des gens qu'on ne peut pas rencontrer dans le monde réel.
Alors c'est votre cas aussi, Arnaud Catherine, puisque vous avez, alors vous êtes plongé dans la vie, alors est-ce que c'est leur vie d'ailleurs, vous avez inventé en fait, vous avez donné une vie à des gens qui en avaient peut-être une autre, qui en ont eu certainement une autre.
Ah, même certainement.
Voilà. Vous êtes donné toute liberté, finalement, leur réécrire une vie, puisque vous avez eu la chance de plonger dans un fond photographique. Il faut nous raconter l'histoire parce que c'est absolument passionnant. The Anonymous Project, c'est ce projet, une sorte de grande base de données photographiques, de photos d'amateurs, en fait, de gens qu'on ne connaît pas. Et à partir de ces photos, c'est pour ça que je parlais de roman photo ou photo roman, ou peut-être qu'il faut inventer un autre terme.
Non, pourquoi pas, moi j'aime beaucoup.
Vous aimez ça?
Vous savez, quand Guibert a sorti son Suzanne et Louise, qui était un texte photo sur ses deux grandes tantes, il a appelé ça roman photo. Alors si Guibert a affectionné cette appellation, je ne peux que suivre.
Donc mais appelons ça un roman photo. Photo, on a une trame romanesque, et puis on demande à un photographe et à des acteurs de poser pour coller. Ouais. Je veux dire, au scénario.
C'est
totalement le contraire.
C'est le contraire. Donc, il y a ce projet Anonymous Project qui est mené par Lee Shulman, qui est anglais à l'origine, et Emmanuel Alquin. Et donc, ils reçoivent, depuis des années et des années, des fonds photographiques familiaux, anonymes, d'Angleterre et des États-Unis pour la plupart. Et ils en font plein de choses. Ils étaient à Arles cette année pour une exposition magnifique.
Aux rencontres d'Arles.
Aux rencontres d'Arles. Ils viennent de sortir un merveilleux livre chez Tachène. Et Alix Penant chez Flammarion a eu l'idée de monter une collection. Et donc elle nous a proposé à Justine Lévy et à moi d'écrire chacun un livre à partir de ces photos. Donc j'ai passé des heures et des heures plongées dans leur fond jusqu'à... Parce que quelque chose me donne envie d'écrire une histoire. Voilà. Justine, elle a écrit des fragments qui sont indépendants les uns des autres. À chaque photo, un texte. Et moi, j'ai eu un roman qui est monté comme on dit.
Ça veut dire quoi, monter, d'ailleurs? Quand un roman monte, alors, parce que le désir monte, la mer monte, un roman monte aussi.
Ce sont des visages, je crois. Ouais. C'est comme lorsque je vole des gens dans la rue, enfin, c'est mon expression, quand je croise un visage et qu'il m'inspire une histoire. C'est bon, il y a des décors magnifiques. Moi, je me suis concentré sur la Californie et sur un fond plutôt américain. Donc, il y a évidemment des années qui me passionnent, les années 40, 50, 60, puis les mouvements de libération aux États-Unis. Mais je crois que ce sont des visages qui me déclenchent. C'est-à-dire, je me dis, mais quelle est la vie de cette personne? Et après, le contrat, c'est que je sais très bien que je vais partir dans la fiction et que je vais trahir absolument la vie de ces personnages, contrairement à Christine, qui elle a essayé, même s'il y a plein de suppositions, d'hypothèses, qui parfois sont déjouées dans le livre, qui a essayé quand même de rejoindre un être qui a réellement vécu.
Vous ne vouliez pas trahir l'ancêtre poisson, Christine?
Non, j'aurais pas aimé le trahir, mais faire fonctionner l'imagination, oui, sur le mode de l'hypothèse et voilà, en corrigeant quand de nouvelles informations.
Et c'est ça qui est vertigineux parce que bon, moi je partais d'emblée dans la certitude que j'allais les trahir, faire mentir leur vie et faire marcher mon imaginaire. Mais ce qu'il y a de particulier dans mon ancêtre poisson, c'est que c'est un être qui a vécu réellement. On cherche un peu la véracité des faits dans toutes ces hypothèses, mais il devient quand même un personnage de fiction. Il devient un personnage de roman, en fait.
Disons, peut-être personnage de roman, mais au pluriel, justement, parce que c'est aussi, ça vient aussi, ça, de tous les romans qu'on se fait dans les familles, voilà, de la question du roman familial, et du coup, comment prendre le relais de ces petits romans et en construire d'autres, en démentir, les démentir pour les reconstruire.
Ouais. Et c'est une famille, d'ailleurs, Arnaud-Catherine, que vous fabriquez, vous aussi, puisque vous faites de ces personnages qui sont sur les photos, vous avez choisi de bâtir une fratrie, en fait, ils sont deux, hein, donc Andrew et Ryan, voilà, donc ils vivent en Californie, qui sont les deux frères, qui vont connaître d'ailleurs des destins différents. C'est aussi une éducation sentimentale, il y a la découverte du désir, la découverte de l'homosexualité, de la photo pour l'autre, en fait, puisque la photo
la
est aussi
pour la photo.
À l'intérieur, c'est-à-dire que vous jouez avec ça. Je rappelle quand même, parce que je l'ai pas fait tout à l'heure, que vous avez publié depuis Les yeux secs en 1998 aux éditions Verticales, près d'une trentaine de livres, c'est ça?
Pas exclusivement chez Vertical, en tout cas chez Vertical pour les adultes, et j'écris aussi pour la jeunesse, oui.
Voilà, on vous doit Sweet Home, La disparition de Richard Taylor, Les garçons perdus, vous avez reçu le prix de la nouvelle de l'Académie française pour Pas exactement l'amour. Oui, côté jeunesse, Je suis un garçon, Je suis la honte de la famille, Je suis
chose,
l'idole de mon père. Ah oui, c'est pas mal, ce sont à chaque fois des programmes comme ça.
Ouais.
Et vous êtes lancé dans une série pour jeunes adultes, comme on dit, ça fait bizarre, jeunes adultes, young adultes, hein, on dit.
Ouais, mais j'aime bien en français aussi,
jeunes adultes. Mais on reste toujours jeune. À la place du cœur, autour des attentats de 2015, dont tous les titres sont déjà parus chez Robert Laffont dans la collection R. Vous avez publié cette année, en mars 2019, aux éditions Verticales, J'entends des regards que vous croyez muets, où déjà, en fait, vous vous intéressiez à des inconnus, hein, c'est ça, les gens que vous volez, dans le métro, dans la rue, au café, sur la plage, vous absorbez leur... Vous en faites des êtres de fiction, déjà.
Je m'emparais de leur apparence pour essayer de la dépasser, mais la dépasser, évidemment, par l'imagination.
Alors donc, il y a des inconnus, hein, dans Andrew est plus beau que moi, hein, ces inconnus que vous êtes allés chercher au fond des cartons de The Anonymous Project, pour donner un sens nouveau, une histoire nouvelle à ces photos. Un mot sur le titre, Andrew est plus beau que toi. Je parlais d'une fratrie, en fait, de deux frères. C'est le père qui dit ça à partir d'une photo, en fait. Père taiseux.
C'est ma chère éditrice qui a trouvé ce titre, parce que c'était pas le titre de travail. Je le trouve assez beau. Ça c'est bien un truc de famille, quoi. Quand il y a des phrases assassines dans les familles.
Ça fait des petits romans, parfois.
Et voilà. Et c'est une phrase que le père va prononcer. Le père, c'est une sorte de vétéran de guerre dépressif et qui a beaucoup de mal avec cette famille qu'il a bâtie. Il est assez absenté et il comprend pas ses enfants qui ont deux trajectoires très différentes. Et il lui arrive de sortir de son silence, de son mutisme empesé, pour dire des choses qui parfois sont assez tueuses. Là, je voulais raconter l'histoire de deux frères. Bon, on connaît ces familles où les frères et sœurs se séparent, les destins se séparent, les lignes de vie ne se croisent plus. Là, je voulais faire le portrait de deux frères qui deviennent très différents l'un de l'autre à l'âge adulte, mais qui ne se sépareront jamais.
Oui. En lisant votre livre, c'est vrai qu'on pense à Barthes, on pense à ce très très beau livre sur la photographie, la chambre claire de Barthes, où il parlait de la photographie et de l'essence de la photographie par une phrase, une courte phrase, « ça a été ». La photographie, c'est ça a été. Et vos œuvres puisent effectivement dans des vies, des histoires qui ont été, même si vous les remaniez, vous les réinventez. Alors, c'est ma première question. Il y avait eu en 2015 un très beau livre aussi. Ils étaient venus en parler, Isabelle Monin et Alex Baupin d'ailleurs, puisque ça s'était prolongé. Ça s'appelait Les gens dans l'enveloppe. Elle était tombée sur une sorte de carton de photographie. C'était la même famille. Mmh. Elle avait dû inventer aussi. Et puis c'était devenu un album de chansons d'Alex Baupin. Et c'est vrai qu'il y a soit une jouissance, soit un inconfort. Mais je voudrais vous demander comment l'écrivain que vous êtes s'est-il débrouillé pour débarquer dans cette histoire qui a été justement avant vous, pour soit l'effacer et en inventer une autre, soit essayer de la reconstituer. Comment on se fait une place là-dedans ?
Alors déjà, j'ai employé déjà ce mot vertige, j'ai beaucoup le vertige ce matin, aujourd'hui pardon. Il y a le vertige, moi quand je vois une photo datée comme ça, ou ça m'arrive avec des films aussi, je me dis quelque chose d'assez semblable à ça a été, je me dis... C'est sûr, ils sont tous morts là. Ça me saute au visage. Donc il y a cette. D'abord il y a ça. Je rentre dans l'image, paradoxalement, par la conscience de la disparition des sujets et des objets de la photo. Donc ce sont des visages. Je m'empare de visages familiers. S'ils sont familiers, ils vont pouvoir exhumer de moi des choses que j'ai possiblement vécues, que je vais transposer, des choses que j'ai vues se faire et vivre. Voilà, la place que je prends, c'est celle que me laisse un visage avec cette étrange familiarité.
Vous pourriez dire un mot sur cette familiarité ? Qu'est-ce qui vous semble familier ? Qu'est-ce que vous voulez dire par familier ?
Un visage qui me semble familier, alors ça peut être mu par plein de choses. Un désir, ouais. Esthétique, la fascination pour une beauté, une étrangeté. Quelque chose, en fait, qui attire le regard, qui retient le regard. Je ne sais pas comment les photographes en parlent de ça, mais on est pareil dans la rue, quand on va chercher l'inspiration. Quelque chose nous arrête. Et alors même que quelque chose nous arrête, il y a une opacité qu'on essaye de renverser, de traverser. Et c'est là que la fiction rentre en jeu, puisqu'il y a impossibilité. Je n'y étais pas. Et lorsque je croise des gens dans la rue et que j'ai envie de les voler, je ne vais pas aller les violenter pour qu'ils me racontent
Certains
leur histoire.
Certains sont reconnus.
Je ne sais pas. Ça, c'est mon embarras.
De ceux que vous avez détroussés.
Ça, c'est mon bel embarras. Ouais.
C'est dangereux. Comment se fait une place là-dedans, Christine Montalbetti, justement, cette ancêtre dont tout le monde parlait, mais dont on n'avait pas tout le texte, tout le tissu.
J'ai l'impression que la place, elle m'est donnée au départ, parce que c'est une place familiale, et que ma place, c'est celle de l'arrière-arrière-petite-fille, et que donc c'est aussi une sorte de figure de grand-père. Et j'ai eu l'envie de ce livre il y a peut-être une quinzaine d'années, et plus les années passaient, plus je me disais, il faut vite que je l'écrive, parce que je vais devenir... plus le temps passe, moins je vais avoir l'air d'une petite fille par rapport à cette figure de grand-père. Et je crois que je me sentais, voilà, comme une petite fille, et cette place-là, d'ailleurs, c'est une position de départ et elle m'est comme restituée à la fin du livre où tout d'un coup je rêve de vraiment marcher dans les allées avec lui en étant une petite fille et lui une sorte de figure de grand-père.
Oui, avec une très belle image, un aveu en fait. En fait, un aveu que vous faites au lecteur, mais que vous faites à cet ancêtre poisson sur la transmission, justement, précisément.
Une confidence qui me vient, alors que je suis assez pudique et que de roman en roman, je pratique plutôt l'esquive au sujet de la vie privée. Et là, c'est vrai que ça me vient à cause de cette relation étrange que je construis avec lui dans l'écriture et qui fait que je finis par livrer aussi cette confidence.
Ce secret. Et vous avez eu, tout à l'heure, Arnaud parlait de... utiliser le mot de trahison. Vous avez eu peur à un moment de le trahir, justement, en ne restituant pas suffisamment convenablement, suivant la vérité.
Ce dont j'ai eu peur, et puis sur la question de le trahir, lui, Je crois que je le dis suffisamment, ça, que on ne peut pas, on peut s'approcher de la vérité des gens, mais bien sûr, on peut pas la résumer ni l'enfermer. Et c'est ça qui est beau aussi, toutes ces parts qui nous échappent, y compris des gens qu'on croise, pas seulement de ceux qu'on n'aura pas connus, et à la recherche desquels on part, pas des moyens d'archives.
Mais est-ce que l'objectif était la vérité? Parce que si on parle de trahison, c'est toujours par rapport soit des gens qu'on trahit, soit par rapport à une vérité.
C'est-à-dire...
à laquelle s'opposerait la fiction, et puis en disant qu'on fait ce qu'on veut après tout. Mais est-ce que c'était la vérité que vous cherchiez ou c'était pas ça le sujet?
Une vérité, parce qu'il n'y a pas, on peut pas enfermer les gens dans le, il n'y a pas la vérité.
Vous prenez pas beaucoup de risques, Christine Ontalbetti. Bien sûr, il y a plusieurs. Non, mais dans votre dans votre volonté de toucher, c'était quoi la cible en fait? C'était quoi vraiment l'objectif?
Je crois que l'objectif c'était de construire la relation qui m'a manqué. Parce que dans une certaine mesure, c'est curieux à dire, mais je me suis sentie accompagnée dans l'écriture. Et je crois qu'au bout du compte, c'est ça aussi qui se joue dans le livre, de cette relation. Et comme dans les relations avec les personnes vivantes, on approche que des aspects. J'ai pas l'impression, enfin j'ai l'impression que parfois aussi il y avait cette chose-là, que j'arrivais à toucher des choses et puis qui étaient confirmées par la suite. Par exemple, il y a une petite plaquette qui a été éditée sur le discours qui a été prononcé pour son jubilé, et puis des hypothèses que je faisais se trouvaient confirmées. Donc voilà, c'est plutôt un tâtonnement. Ce qui m'a plus inquiétée, c'est que il y avait ces deux anecdotes qu'on racontait depuis l'enfance, qu'on racontait à table, que je n'avais plus ni entendu ni raconté depuis quelques décennies. Et je me suis aperçue rétrospectivement que une de ces anecdotes était très joyeuse et l'autre assez terrible. Mmh. Et j'ai un peu hésité à la dire parce que je me suis dit qu'elle engageait aussi d'autres héritiers que moi. Voilà, qu'on descendait aussi et qu'on était plusieurs à descendre de cette drôle d'histoire que j'hésite à raconter et que je finis par raconter.
Merci Christine Montalbetti. On continue avec vous et avec Arnaud, Catherine and the Anonymous Projects. Il y a presque une co-signature, on va y revenir tout de suite.
Mais pas presque, total.
Totalement, voilà. Andrew est plus beau que toi, c'est chez Flammarion. On poursuit d'ailleurs avec vous Arnaud, Catherine. On écoute d'abord votre choix musical. Vous avez choisi Clara Isée, ce très beau titre.
Le monde s'est dédoublé.
Et voilà, ça va bien pour ce livre. On écoute Clara Isée.
Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. J'ai senti le temps se fondre un instant sur les visages mêmes. Le monde s'est dédoublé. Vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude ont perdu leur densité. Rappelez tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares. Regarde en deux dessous de la nuit, il y a toujours le jour qui pose ses lumières sur un coin de la terre, te rappelant tout bas que la joie est toujours à deux pas. Je te dis prends patience, mon ami, prends patience, vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami, te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami, prends patience, vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares.
Lumière, fracas, deuil, joie, tenir debout, Clara Isée. Le monde s'est dédoublé, c'est le choix d'Arnaud Catherine qui publie Andrew est plus beau que toi, c'est chez Flammarion, avec The Anonymous Project. Pourquoi ce choix musical?
Clara Isée, c'est une jeune femme qui a publié un premier EP, qui prépare un premier album. Vous avez entendu cette voix, je ne sais pas d'où elle vient, c'est un parfait mystère. Et puis, il y a cette parole... elle parle beaucoup du deuil, elle a perdu sa mère.
Oui, la philosophe.
La grande Anne Dufresne-Montel.
Anne Dufresne-Montel.
Donc elle affronte la question du deuil dans ses chansons. Et le tout, sur la cavalcade d'une musique endiablée, elle raconte ce corps qui, et c'est cette âme qui se dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait après? Je choisis de danser. Elle raconte ça à un moment donné. Choisir de danser alors qu'on est éploré. Il y a ce passe-paradoxe, c'est la vie, la complexité de la vie après la mort, après la disparition. C'est une artiste, moi, qui m'a, quand j'ai découverte, et je ne cesse de l'écouter, notamment cette chanson.
Mon ami prend patience. Ouais. Très, très beau. Il n'y a pas un lien avec...
La joie est toujours à deux pas.
Exactement. Arnaud Catherine, ce qui s'est dédoublé aussi dans votre livre, c'est la réalité, la fiction, réalité des images, hein, parce que je rappelle, hein, pour celles et ceux qui nous rejoindraient maintenant, que Andrew est plus beau que toi, c'est un roman que vous avez brodé, je ne sais pas si la métaphore vous convient, sur des photos, sur un fond photographique. Ça vous va bien. Est-ce que la broderie, est-ce que c'est prosaïque finalement, d'entrelacer les fils d'un texte? C'est de la prose en tout cas. Vous avez eu accès à un fond photographique qui s'appelle donc le fond The Anonymous Project. Oui. Vous avez pioché, vous allez nous raconter comment vous avez fait votre choix aussi. Et parmi les photos que vous avez choisies, eh bien, il y en avait certaines qui vous ont inspiré, qui vous ont fait monter, comme vous disiez tout à l'heure, une histoire, celle d'Andrew et Ryan, deux garçons de Californie que vous prenez entre quoi, les années 40, 50,
depuis qu'ils sont
30,
enfants, dans les années 40, jusqu'à le début des années 70, tous les mouvements de libération que nous connaissons.
Et la Beat Generation aussi.
Noir, féministe, queer, avec bien sûr la Beat Generation qui passe par là.
Et vous nous racontez leur enfance, leur éducation sentimentale, leur vie d'adulte aussi, à travers donc deux voix, la voix d'Andrew, la voix de Ryan, qui parle à la première personne.
Ouais.
Et tout cela entrecoupé, monté par les photos, justement, de ce fond d'archives. On disait tout à l'heure roman photo ou photoroman. Je voudrais quand même que vous nous expliquiez comment vous avez fait votre choix parmi cette masse. Il y a combien de photos dans ce fond?
C'est impossible de le dire, des milliers et des milliers. Alors, j'ai passé des heures à regarder les photos qu'on mettait à ma disposition. Certaines s'imposaient d'évidence, m'ont inspiré le début du livre, à savoir inventer cette fratrie, ces deux personnages. Et puis au fur et à mesure, je me suis raconté mon petit roman, moi aussi, sur la côte californienne, dans ces années-là. Et il y a un moment donné où j'ai eu besoin d'images. Et où là, Lee et Emmanuel de The Anonymous Project m'ont beaucoup aidé. Par exemple, je voulais que Ryan, son meilleur pote, soit noir, parce qu'il va il va travailler dans un journal indépendant de gauche, s'intéresser beaucoup au mouvement de libération. Et fatalement, les fonds photographiques reçus concernent beaucoup la pratique de la photo chez les bourgeois blancs dans les années 40, 50, 60. Donc il y avait assez peu de noirs. Donc j'ai demandé à Lee et Emmanuel de me sortir tout ce qu'ils avaient pour que je puisse inventer Spike, le meilleur ami de mon héros. Donc voilà, vous dire que j'ai rêvé en me baladant dans leurs archives, dans ce fond, mais j'ai eu aussi vraiment besoin de leur aide à certains moments. De même, je trouvais assez peu de photos sur les hippies et la Californie dans les années 70, quoi. Donc ils m'ont beaucoup aidé, ils ont cherché dans leur fond pour me trouver ce dont j'avais besoin.
Donc c'était dans les deux sens, c'est-à-dire que vous aviez des photos à votre disposition qui faisaient monter l'histoire,
ouais.
Mais parfois, aide à cette montée...
Souvent, je leur passais commande, je leur disais, demandez. Je vous en prie, il faut que vous me trouviez Spike.
Ouais. Alors, un petit peu le même processus, Christine Montalbetti, puisque dans Mon ancêtre poisson, publié chez POL, vous vous appuyez aussi sur un nombre de documents. Vous avez souhaité retrouver certains documents pour alimenter cette histoire qui montait, même si c'est l'histoire de votre ancêtre ?
Oui, alors pour ce qui est des photos, en fait, elles me sont arrivées tardivement, parce qu'on n'avait pas dans la famille de photos de cet arrière-arrière-grand-père. La première photo qui m'est arrivée, donc, est une photo de lui qu'un bibliothécaire du Jardin des Plantes m'avait envoyée par mail. Alors, peut-être à la différence des photos qui figurent dans le livre d'Arnaud et qui sont des photos qui saisissent plutôt des instants. Mais voilà, ce sont des photos de vacances aussi ou d'instants dans la maison.
Beaucoup
d'instants. Voilà, ouais. Des situations. Ce sont des photos magnifiques d'ailleurs, ils sont impressionnants. Ces amateurs, entre guillemets.
Ouais.
Là, au contraire, c'est une époque. Donc, lui, il est né en 1833. Mort en 1919, c'est une photo où il est assez âgé, sur laquelle je le découvre, donc il doit dater de peut-être 1917 ou 1918. C'est une époque où les photographies, au contraire, ne sont pas encore là pour saisir des instants, mais plutôt pour résumer des vies. On pose et c'est comme si on livrait une espèce de condensé de biographie et comme si dans le contre-champ du regard de celui qui est photographié, c'était toute sa vie qu'il embrassait. Et du coup, cette photo m'émeut aussi pour ça. Elle m'émeut par ce visage déjà assez âgé, cette manière de concentrer comme ça toute sa vie et aussi par une tristesse que j'y décèle, dont je ne connais pas la cause et à la recherche de laquelle je vais partir.
Alors on y reviendra tout à l'heure, Christine Montalbetti, parce que la photo est présente dans le texte, sauf que vous ne montrez pas les photos.
Non.
Je vous demanderai pourquoi, mais
Arnaud, moi aussi, je veux savoir.
Voilà. Mais Arnaud, Catherine, les photos. Alors, parce que évidemment, il y a le résultat maintenant. C'est un livre. Hein, là, je l'ai ouvert devant moi. On est à la radio, pas à montrer, mais je vais essayer de décrire. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on lira ce passage-là. Un grand-père qui dort. Mmh. Cette image-là, en plus, va aller beaucoup plus loin que l'image d'un grand-père qui dort, puisque c'est un grand-père qui est mort que vous nous raconterez. On verra le passage tout à l'heure quand vous nous le lirez, mais c'est un livre de photos et de textes. Qu'est-ce que cette coprésence apporte ?
Il y a du jeu, c'est-à-dire que le pari, c'était d'aller chercher dans des fonds, dans des cartons, dirons-nous, par métaphore, très différents, venant de familles totalement différentes, et de faire croire au lecteur et à la lectrice que tout ça ne raconte que l'histoire d'une et même famille.
Mmh. C'est-à-dire que j'avais
choisi mon Andrew, mon Ryan, et de photo en photo, d'année en année, il fallait que vous ayez l'illusion que c'est bel et bien Ryan qui grandit, que c'est bel et bien son père, là, sa mère. Donc il y avait aussi, dans la reconstitution d'un puzzle imaginaire, quelque chose de l'ordre du ludique. Et moi, à mon âge, là, je peux plus renoncer à la part de ludique.
Pourquoi ?
Dans notre métier d'écrivain.
Pourquoi ?
Parce que j'ai plus l'âge de me traîner comme Werther avec un nom en peignoir. Et que j'ai découvert que même si on a tous nécessité à dire des choses, on a des parts d'ombre et des parts douloureuses à exhumer et à mettre dans des livres, il y a aussi dans cet artisanat quelque chose qui tous les jours me ravit et il y a un principe de plaisir. Et alors là, si le plaisir je l'ai connu, c'est bien tout au long de l'élaboration de ce projet.
Mmh. Il y a beaucoup d'humour hein, aussi, parce qu'il est question
avec l'âge aussi.
Beaucoup de désir et d'éducation sentimentale. Il y a le désir pour les filles de Ryan et le désir pour les garçons.
Ouais, pour l'autre.
Voilà. Et il y a notamment une photo, je ne sais pas si je vais la retrouver, une double page de photos où votre personnage, donc c'est un jeune garçon allongé. Et là, j'allais dire la légende, parce que pour le coup, c'est presque une légende. C'est trois lignes. Je voudrais que vous la lisiez et que vous nous décriviez d'ailleurs cette photo. D'ailleurs,
c'est l'un des personnages, Andrew, qui parle de son amoureux. Et donc, effectivement, on voit un personnage en maillot de bain ou en slip, je ne sais pas, allongé dans l'herbe. Et il dit, de mon point de vue, le maillot gâche un peu. On le préférerait sans. Mais tout de même, c'est la beauté. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. La beauté.
Et il n'y a rien d'autre à dire, sauf que dans la mise en page, au fond, le maillot a disparu.
Oui, parce qu'il est au milieu, c'est
voilà.
Vrai.
Donc finalement, il y a eu des jeux de...
On peut imaginer, oui, avec les graphistes, avec Lee et Emmanuel, avec Alix l'éditrice. Bien sûr, on a tous essayé de s'amuser. Chacun avait sa part de ludique, comme je le disais. Et on a essayé de mettre en scène le texte aussi, à chaque fois, de façon... qu'il y ait du relief, qu'il y ait de la surprise, qu'il y ait de l'inattendu. Voilà, on voulait aussi que nos lecteurs soient surpris et s'amusent en découvrant ces objets qui sont quand même assez hybrides et singuliers.
Vous jouez, Arnaud Catherine, dans ce livre, on écoutait Clara Isé tout à l'heure, Le Monde s'est dédoublé. Vous dédoublez aussi, donc entre les deux frères, justement, cette histoire, dédoublement de narrateur. Mais mise en abîme aussi, là, pour le coup, c'est qu'il est question de photos aussi... dans le texte, puisque l'un des garçons se prend de passion pour la photographie. C'est venu, je suppose, très facilement de se dire, tiens, je vais raffiner encore le procédé et je vais mettre en abîme le geste photographique dans ce roman basé sur des photos.
C'est exactement ça. Vous avez bien résumé l'affaire. Et puis moi, il y a quelque chose qui me fascinait depuis le début. Christine le soulignait tout à l'heure. C'est que dans ces fonds photographiques qui sont... c'est de l'amateurisme, soi-disant. Eh ben, comme nous avant, quand on allait faire développer nos photos, il se trouvait une très belle photo parmi les 24. Là, il y a des chefs-d'œuvre. C'est-à-dire, il y a des photos qui sont drôles parce que c'est des photos d'anniversaire. Il y a des situations comme ça capturées qui nous font sourire. Bon, mais il y a aussi de vrais chefs-d'œuvre et des photos qui sont, qu'on dirait, de grands photographes. Et donc, je voulais parler de ça aussi. Qu'est-ce que ça a été dans ces années-là de s'acheter un Nikon, de se mettre à travailler en argentique à l'époque? Et il y a des vocations qui ont dû naître. Là, moi, mon personnage, évidemment, il est fasciné par Eggleston parce que voilà, c'est le premier qui va se passionner pour la couleur. C'est toutes ces années-là aussi.
Puis ça vous permet de jouer sur ce que ça fait une photo quand on la prend, quand on la regarde après, notamment à l'adolescence, c'est-à-dire des photos de corps. C'est un livre où le désir est omniprésent. Et le désir traité, justement, j'allais dire, sur ces deux versants, puisque il y a un passage où on voit Ryan qui est surpris en train de regarder les photos qu'il a prises, qui sont des photos de corps de filles, et qui, s'auto-érotise en regardant, et le petit frère le voit. Et lui... Le petit frère aimerait justement voir plus de photos de corps d'hommes. Est-ce que cette part de désir que fait souvent surgir la photographie a aidé, vous a aidé aussi dans la stimulation littéraire, c'est-à-dire où le désir, c'est-à-dire ce jeu entre le désir suscité par la photo, vous-même qui pouviez les choisir en fonction de ce désir peut-être contenu dans les photos que vous choisissiez. La photo de ce garçon, la photo... Il y a des photos non pas de nu, mais de semi-nu.
Si, il y a une femme torse nu. Alors ça, c'est issu d'une revue américaine.
Qui fait du ski nautique.
Pour moi, en fait, la photographie, je suis passionné de photos, elle m'intéresse à mains égards, mais la question du désir, on ne peut pas l'éluder. Et ça m'amusait, en fait, de mettre en scène ces deux frères qui, à l'adolescence, vont courir dans les rues de Los Angeles avec le Nikon qu'on a confié au grand, à l'aîné, à Ryan. Et alors Ryan, forcément, ce qu'il a envie de photographier, c'est des filles, quoi. Il a envie de garder, on a tous eu envie de ça, je pense, quand on regarde une œuvre ou quand on prend une photo, c'est qu'on veut garder quelque chose qui va nous échapper.
Ça a été.
Et qui nous manque déjà, même au moment où on est dans la fascination et la contemplation.
Et sur le désir.
Déjà, ça manque.
Sur l'érotisme de
et
la
donc,
photo.
Ben,
est-ce qu'il a déclenché l'écriture? Est-ce qu'au fur et à mesure du livre, quand vous l'écriviez, vous êtes vous aussi servi de ces photos pour stimuler le désir d'écrire? Et même l'érotisme de l'écriture?
Alors oui, l'érotisme traverse ici et là. Après, je peux pas parler forcément d'un désir à proprement parler érotique quand je parle des parents de mes deux ados, etc. Donc c'est un désir avec un grand D, mais je pouvais rien écrire si la photo ne me fascinait pas à minima. Et donc parlons de désir, oui.
Non, parce que choisir la Californie, c'est choisir le corps nu, c'est
choisir
le corps exultant.
Je voulais ça parce que, bien sûr, il y a cette question politique dans ces années-là, des mouvements de libération, mais il y a aussi tout l'hédonisme, la sensualité sur ces plages, qui bien sûr, auxquelles je tiens. Après, moi, je suis un homme de plage, je suis... un homme des bords de mer, donc ça revient dans tous mes livres. Et là, c'était sur la côte californienne.
Je voudrais qu'on vous entende lire, Catherine, un extrait. Alors là, on n'est pas, on était dans l'Eros, on passe à l'autre versant. Thanatos, la mort, c'est le fameux grand-père dont on parlait. Et vous pouvez d'ailleurs même nous donner une idée de ce qu'il y a en face. Là, pour le coup, on a la photo vraiment vis-à-vis de ce texte.
Oui, il s'agit d'un homme, 70-80 ans, je ne sais pas, qui dort dans un fauteuil au milieu d'un salon. Et il y a un petit sapin de Noël sur la commode, sapin miniature.
Et il a la bouche ouverte.
Et il a la bouche ouverte, tout à fait. Ryan n'aimait rien tant qu'amuser la galerie. Moi, bien droit dans le rang, aux ordres, quoique n'en pensant pas moins et remettant à demain mes envies d'émancipation. Lui, d'une insolence extraordinairement naturelle, sans qu'on sache d'où ça lui venait. Disons qu'il en faut un dans chaque famille et que c'est tombé sur lui. Son plus grand plaisir, mettre notre grand-père maternel en boîte chaque fois qu'un repas de famille lui en donnait l'occasion. Grand-père était un bon client. Entre le jambon de Noël et le dessert, donc, grand-père s'est assoupi au salon. Évanoui serait plus juste, tant on l'a vu lutter pour ne surtout pas offrir ce spectacle de lui-même. Ryan s'empare du sacro-saint canon de papa, que nous avons évidemment interdiction d'approcher. Notre père ne découvrit la photo qu'en allant chercher ses tirages au labo. Grand-père en rit, bien sûr, et nous aussi. Cette photo resta célèbre dans la famille, jusqu'à ce que nous trouvions grand-père, inanimé, un soir de Noël. C'était le même visage, exactement le même visage que sur la photo. Tout le monde en convint. C'est l'une des rares fois où je vis mon frère bouleversé, totalement désarmé, sans son ironie réflexe. Il est troublant d'imaginer qu'un soir, sans le savoir, tentant une simple blague, Ryan a photographié, quelques 10 ans avant qu'elle ne survienne, la mort de grand-père.
Merci Arnaud-Catherine. La photo et la mort, hein, après la photo et le désir. Je cite à nouveau la chambre claire de Barthes, parce que ça correspond exactement à ce qu'on vient de vivre en vous écoutant. Il y a quelque chose d'un peu terrible dans toute photographie, disait Barthes, le retour du mort. Et il disait encore, cette rage à faire vivant ne peut être que la dénégation mythique d'un malaise de mort. La photo est comme un théâtre primitif, comme un tableau vivant, la figuration de la face immobile et fardée sous laquelle nous voyons les morts. C'était une pensée présente quand vous écriviez, Arnaud-Catherine, leur qualité, disons la mort de ces personnes, mais aussi leur qualité présente de fantôme.
Bah, pas tellement. Alors que je vous ai dit tout à l'heure, et ça reste vrai, que lorsque je vois certaines photos anciennes, la conscience de la disparition des sujets m'assaille tout de suite. Là, ils sont devenus vivants parce que sont devenus des personnages. Et ça, c'est le petit miracle de l'écriture. Mmh. En fait, je vivais pas avec des fantômes pendant l'écriture, je vivais pas avec des morts. Je vivais avec des êtres de papier qui étaient profondément vivants parce que je m'efforçais de les animer.
Oui. Alors, vous l'appelez le fantôme, votre fantôme en redingote. Christine Montalbetti, quand vous parlez de cet ancêtre Poisson, donc Jules Poisson, votre arrière-grand-père, il y avait cette idée-là aussi, on en parle pour la photo, mais de retour du mort. Il était mort,
oui,
il était vivant.
Je crois que c'était vraiment un fantôme au sens où voilà, c'était cette espèce de souffle fluide, étrange, qui pouvait m'accompagner, dont j'imaginais qu'il marchait dans les allées du jardin. Mais qu'aussi, un des buts du livre, c'était de lui redonner un corps aussi. Et de parler, par exemple, de son rapport aux hivers rigoureux. Un hiver au sujet duquel je lis qu'il y a eu des neiges très longues, puis une débâcle de la Seine. Et de l'imaginer aussi dans son vêtement, de décrire aussi son rapport tactile aux bocaux qu'il manipule, son souffle, la manière dont ses collègues lui ont serré la main. Voilà. Tout ça qui m'échappe définitivement, c'est-à-dire je n'aurais jamais touché cet homme-là de ma famille, mais d'essayer dans le récit de restituer comme ça des sensations très physiques et de lui redonner fugitivement un corps dans le livre.
Alors, Mon ancêtre Poisson donc, est un livre où il est question de Jules Poisson, hein, je le disais, donc votre inconnu intime. Et dans ce livre, vous enquêtez sur lui, donc c'est ce petit jardinier à 9 ans du Jardin des Plantes, devenu un botaniste remarquable, fêté par ses collègues pour ses publications scientifiques, un autodidacte aussi qui avait une grâce particulière quand il rédigeait ses articles scientifiques, puisque il les écrivait avec un style extrêmement poétique, en fait, avec une langue d'écrivain, trouvant au yucca une beauté sévère, trouvant que certains arbres poussaient sans broncher. Et on le suit, grâce à vous, par petites séquences où vous tâchez de retisser le fil de l'histoire de cet ancêtre et des émotions qui ont pu être les siennes à certains moments décisifs de sa vie. Tout à l'heure, je vous demandais, mais on va peut-être tout de suite entrer finalement dans le vif de cette page. Il est question d'une photo. C'est une photo qui déclenche l'écriture du livre.
En tout cas, elle va jouer un rôle, oui, très important dans l'envie de partir à sa recherche et de découvrir son histoire.
Voilà, c'est page 11 et on vous écoute, Christine Montalbetti.
J'ai vécu très longtemps sans connaître ton visage. Ma grand-mère, ta petite fille, n'avait pas de photographie de toi. De ta femme, oui, je crois me souvenir, pas toute jeune, avec le soleil dans la figure, debout dans un paysage. Mais prenez ça avec des pincettes. Et puis, il y a 8 ans peut-être, un bibliothécaire du muséum auquel j'avais parlé de toi. Oui, il y a un carton de lettres de Jules Poisson, mais elles ne sont pas encore référencées, m'avait-il répondu depuis le clair-obscur de son bureau, ou pourquoi est-ce qu'il me semble que cette boîte était là, qui patientait dans l'ombre, m'a envoyé ton portrait par mail. Voici ce que j'ai dégoté. Vous imaginez mon état au moment de cliquer sur le fichier. Ton visage, grand Dieu, comme ton visage est sérieux. Tes yeux noirs, mangés par tes paupières lourdes, ta fatigue et ton âge, scrutant un horizon factice, déterminé. Et tes mains, parlons de tes mains, larges, épaisses un peu, l'une qui bâle au bout de ton bras droit, le long de ton corps, et l'autre posée sur le dossier en bois orné d'un fauteuil. C'est une photo de studio, et tu as remarqué, derrière toi, cette toile peinte, ce qu'elle représente, des feuillages. Est-ce que ça n'est pas bienvenu pour toi de poser devant ça, cette fiction de frondaison? Mais ta redingote, dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu n'as fermé que le bouton du haut. Est-ce qu'elle était devenue trop étriquée? Tu parais si âgée sur ce cliché. Est-ce que tu l'as ressortie pour la pose, ta plus belle redingote que tu n'avais pas enfilée depuis un moment déjà? Et voilà, elle était devenue un peu étroite, mais tu as pensé qu'elle ferait tout de même l'affaire. Pas le sou, c'est possible, pour t'acheter une redingote neuve, pas l'énergie pour le faire. Est-ce que c'est un oubli, l'effet de ta fameuse distraction? Ou bien est-ce que c'était l'usage de ne fermer que le bouton du haut, une injonction du photographe, allons, et toi, avec tes idées de savant, peut-être bien que tu t'en fichais de ta redingote, de l'aspect qu'elle avait, digne dedans, ça suffisait bien.
Merci beaucoup Christine Montalbetti. Ça vous fait sourire Arnaud Catherine?
Ouais, il y a une tendresse qui me fait sourire. Et j'aime ça, voilà. Quand je dis tendresse, je pense aussi à Marie Laforêt, tiens, et à sa chanson. Mais oui, je suis pas contre qu'on ne soit pas que dur. Je l'ai beaucoup été dans mes livres, et quand j'entends Christine, j'aime ça.
C'est vrai que c'est tendre, c'est beau, c'est ludique aussi. Vous vous amusez. Alors, c'est vrai que ce nom de poisson. Alors c'est comme les photos sur lesquelles vous tombez, Arnaud Catherine. Ça ouvre, je veux dire, un océan de possibles, évidemment, parce qu'en plus, vous vous amusez avec ça. C'est que on est censé quand même tous
descendre
du poisson. Et d'autant que les poissons, vous le lisez quelque part, ont l'instinct familial. Donc, je veux dire, c'est absolument génial, cette piste.
C'est vrai que je trouvais très drôle que le plus ancien ancêtre que je me connaisse s'appelle Jules Poisson. Et voilà, comme cet ancêtre commun. Et c'était aussi une façon peut-être de le mutualiser, de le rendre commun, voilà, de jouer avec ce nom-là. Et
on te remercie.
De jouer avec ça. Et que du coup, ce soit aussi un peu votre enquête.
Oui, parce que vous l'interpellez, mais le lecteur est aussi, comme souvent d'ailleurs dans vos livres, interpellé. Alors c'est vrai que parfois on se sent un peu, on continue à vous lire, mais on sent que on a envie de vous laisser tranquille aussi avec cet ancêtre poisson. Donc on est là à regarder à côté, on est moins interpellé que d'habitude. On sent qu'il y a une conversation qui se joue là, on l'écoute, on n'a pas envie d'être troublé. Elle est passionnante, elle est tendre, comme vous le disiez, mais voilà, on veut se mettre à distance en tant que lecteur.
Il y a peut-être statistiquement un peu moins d'adresse au lecteur, mais il est toujours très, il est toujours convié dans l'histoire, il est toujours très important pour moi.
Et tout ce côté ludique dont on parlait tout à l'heure, se demander voilà si les poissons ont l'instinct familial, se dire que c'est votre poisson, mais aussi notre poisson, se demander ce que les poissons ont dans la tête, comme vous le dites, c'est cette dimension ludique aussi, elle vient du, elle est importante chez vous. Vous aussi, vous avez passé l'âge de vous promener en manteau noir à la Werther, comme disait Arnaud tout à l'heure.
En redingote.
Je crois que c'est un luxe que je n'ai jamais eu. Parce que pour se promener en manteau noir, il faut quand même être sacrément costaud pour pas basculer de l'autre côté.
Oh, je sais pas si vers... Ah oui, de l'autre côté, c'est-à-dire de vers,
vers où va Werther.
Ah oui, vers où va Werther, oui, c'est vrai. Et... Mais vers l'éternité, il va en même temps.
Oui, y a... du coup, il y a toujours eu de l'humour dans, dans mes livres. C'est pour moi une chose qui est essentielle et qui a à voir, je crois, à la fois avec mon rapport au monde et ma façon d'être et d'exister, mais aussi dans l'écriture même, parce qu'il y a aussi beaucoup de mélancolie dans mes livres et que ce sont deux choses qui travaillent à la fois, qui bataillent comme ça, l'humour et la mélancolie, mais qui sont aussi, qui vont aussi de pair, qui sont aussi les deux faces de mêmes émotions.
De père et de grand-père et d'arrière-arrière-grand-père.
Oui, aussi. Et du coup, voilà, écrire, c'est peut-être poser des mots sur ma mélancolie, mais essayer de la transformer en joie.
J'avais envie qu'on se ressemble, dites-vous. Quand, alors là, vous adressez peut-être au lecteur. Et cette ressemblance-là, on sent que vous la cherchez aussi à travers les mots qu'il emploie, à travers son imaginaire poétique à lui, on le disait tout à l'heure, la façon dont il parle des fleurs, des plantes, dont il se promène aussi dans les allées de ce jardin, et la façon dont il personnifie, dont il humanise justement ce qui est de l'ordre du végétal. Est-ce que vous avez été tenté aussi d'essayer de lui ressembler en pénétrant sa phrase, son langage, ses expressions, à écrire comme lui en fait, à essayer d'écrire comme lui?
J'ai pas essayé d'écrire comme lui, mais ce qui était, c'était très touchant pour moi de pouvoir entrer dans ses phrases. Et aussi, ça faisait que du coup, c'était comme s'il y avait un dialogue. À un moment, je parle d'une sensation de duplex temporel où on parle chacun depuis notre époque et où du coup, il s'agissait pas seulement d'écrire sur lui, mais aussi d'être dans cette espèce de dialogue fictif entre ces phrases et les miennes.
Vous avez tous les deux, vous venez dans son, d'ailleurs, je crois que c'était dans son texte sur la photographie, Walter Benjamin parle de l'aura des objets, c'est-à-dire cette espèce de plus que d'une lumière, mais presque d'une lumière comme une onde, en fait, qui fait qu'elle traverse que certains objets, certaines photos traversent le temps et émettent encore énormément de choses. C'est ce matériel que vous avez eu, donc des photos, mais pas que des photos, comment ils ont agi sur votre travail d'écrivain, de romancier. Arnaud Catherine, c'était de dire il fallait qu'il y puise, et même qu'il réclame, hein, vous le disiez, des photos qui n'existaient pas encore, mais qu'on vous produisait, qu'on allait chercher pour vous. Comment ça interagit, si je puis dire, ces documents sur lesquels vous tombiez et qui ont finalement été comme ces petits cailloux qui nous rendent possible aujourd'hui la lecture de Mon ancêtre poisson?
Disons que pour les articles, je les imprimais au fur et à mesure, je les avais sur mon bureau, il y avait une sorte d'accompagnement physique comme ça. Pour les photos, elles sont venues au fur et à mesure. Il y en a que j'ai reçues d'un grand-oncle que je ne sais pas interpréter, derrière lesquels il y a un point d'interrogation au crayon à papier, qui sont comme ça des petites énigmes. Et puis il y a un jour, je tombe aussi à la bibliothèque sur une photo du fils, de ce fils prodigue dont on savait si peu de choses et dont je découvre l'histoire. Et ça, pour moi, c'est très troublant de tomber sur cette photo de jeune homme et de découvrir son visage.
C'est la première fois que vous vous basez sur des documents aussi intimes et anciens pour écrire.
Oui.
Qu'est-ce que ça a changé alors justement dans la façon d'écrire? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que plus troublant?
C'est troublant, oui, c'est différent. J'aime bien aussi d'un livre à l'autre essayer d'explorer un terrain nouveau aussi pour me dépayser, pour découvrir d'autres choses et puis aussi pour rechercher peut-être ce qu'il y a de commun chaque fois dans le geste de l'écriture.
Il y a beaucoup d'humour aussi, puisque vous citez son dernier texte scientifique, qui est consacré au lombric, aux vers qui se nourrissent de ce qu'ils trouvent dans la terre. cet homme approche de la mort, enfin il ne le sait pas encore, il écrit sur les lombrics. Les lombrics donc, comment ça pour vertu d'aérer la terre? Comment depuis Darwin on s'y intéresse? Mais comment de cette même terre ils ingèrent les éléments qui nourrissaient les plantes? Des parasites donc, tu prononces le mot. Alors les lombrics, une mauvaise chose ou une bonne chose? C'est la question que tu poses. Je les lis tes phrases. Est-ce que tu te doutes que tu écris pour la dernière fois? Que pour la dernière fois, tu fais une communication devant cette assemblée? Tu dois bien avoir ton idée là-dessus. Regarde-moi ça, tu mentionnes Toin et tu parles justement de ses 80 ans. Avec lui, tu te sens en bonne compagnie, même imaginaire. Alors tu le cites abondamment, Toin. Tu continues. Tu reviens au geste du jardinier que tu as été d'abord. Tu parles semis, mode de terre, rempotage. Pour se débarrasser des vers, tu conseilles le mâche-fer, si tu le dis. Et cet homme va mourir. C'est un peu comme le passage tout à l'heure de la photo avec involontairement, on se met à fréquenter la mort. Il y a eu ce vertige aussi. Vous tentez de le ressusciter et au fond, vous tombez fatalement sur sa mort.
C'est très troublant de tomber sur son dernier article. J'ai aussi trouvé à la bibliothèque, dans les fonds du muséum, le faire-part de sa mort avec ce petit liseré noir. Je ne sais pas si ça existe toujours. Maintenant, on s'envoie ça par mail. Mais autrefois, on recevait ça dans les boîtes aux lettres. Et ça m'a beaucoup émue de trouver ça avec la liste de certains membres de la famille dont je reconnaissais certains et pas d'autres.
Vous vous sentez changée en tant que romancière, après cette expérience?
Oui, c'est vrai, je me sens un peu changée.
Qu'est-ce qui a changé?
Je ne sais pas. Le fait que le livre existe, ça fait que tout d'un coup, malgré tout, cette vie que j'avais envie de lui redonner un peu, ce corps que j'avais envie de lui redonner, je peux le transmettre au lecteur. Donc il existe un peu de ça. Bizarrement, je m'en sens assez heureuse. J'ai l'impression que oui, ce fantôme a repris un peu de chair et ça me réjouit.
Dernière question, la question. Pourquoi n'avez-vous pas souhaité intégrer les photos au livre? Est-ce que c'était pour affirmer qu'au fond, la littérature est suprême et qu'elle se passe largement d'images?
Je me suis posé la question, et j'en ai parlé d'ailleurs avec Frédéric Boyer,
le chef de POL.
Et voilà, on s'est posé la question de savoir, on sait pas une collection qui d'ordinaire a des photos aussi, c'est aussi une question de choix éditorial, on s'est posé la question.
Non, mais on peut tout faire.
Je pense que s'il y a une édition de poche, il y aura peut-être un cahier photo. Je trouve que les deux se défendent. Moi, j'étais très incertaine entre ce qu'il y avait.
Mais vous aviez peur de quoi? De parasiter la lecture?
Non,
de
mais j'avais pas de peur, mais j'avais deux désirs contradictoires. Et puis voilà, on a choisi en commun une des solutions.
Avant de se quitter, on écoute votre choix musical, Christine Montalbetti. Vous avez choisi Élégie, composée par votre frère, Éric Montalbetti. C'est un extrait de son album Un herbier pour la vie. C'est ça, on est totalement dans l'univers de Jules Poisson.
Voilà, il y avait cette coïncidence de l'herbier, et puis c'est un solo pour violoncelle qu'il a écrit pour cette grand-mère dont je parle brièvement, et qui était finalement le maillon entre Jules et moi, puisque et Jules qui est né en 1833 et moi, nous avons tous les deux posé nos yeux sur elle.
Et convoquer votre frère aussi, c'était pour participer.
Oui, comme c'est une histoire familiale, voilà, je trouvais que c'était beau de faire écouter ce solo.
Voilà. Merci à vous.
Merci.
Ça s'appelle Andrew est plus beau que toi, c'est chez Flammarion. Arnaud Catherine and the Anonymous Project, vous co-signez en fait.
Ouais.
Il y a deux auteurs.
Il y a deux auteurs, il y a Anonymous et puis moi.
Voilà. Et Christine Montalbetti, vous auriez pu co-signer avec donc mon ancêtre Poisson, avec Jules Poisson, parce qu'il est là en fait, c'est lui qui tient la plume, qui inspire constamment.
Oui, pourquoi pas.
Mon ancêtre Poisson, c'est chez POL. Merci à tous les deux.
Merci.
C'était Le Temps des Écrivains avec Anne-Catherine Lochard et la complicité de Tsolag Paloyan, Milena Heilig à la réalisation et Pierre Montel à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster à l'infini sur franceculture.fr. 7h avec Arnaud Catherine, Christine Montalbetti, Andrew, Ryan et Jules Poisson. Voilà les invités de vos romans. Merci encore.